Et sur France Inter, il est 19h. Hélène Philippe, bonsoir.
Bonsoir à tous. Les classes resteront ouvertes, même avec un cas de Covid. C'est l'une des annonces du jour que l'on va détailler dans un instant. Et cette troisième dose pour tous, possible dès samedi. Déjà un record dans les prises de rendez-vous, 400 000 en quelques heures. Les mesures face à la cinquième vague, c'est aussi la validité des tests raccourcis, le retour du masque dans les lieux clos et le gouvernement qui réfléchit à la vaccination des 5-11 ans. Dans l'actualité, encore émotion à Calais après le naufrage meurtrier dans la Manche hier. Une cérémonie a lieu en ce moment. Dossier très diplomatique aussi. La France veut un espace Schengen plus efficace et se tourne vers Bruxelles. Au procès des attentats du 13 novembre, quatre absents très remarqués aujourd'hui. Et puis une star mondiale de la musique électronique, Carl Craig, mixe ce soir à Paris. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, nous allons plonger ensemble dans les débats que vos ados et jeunes adultes ramènent souvent à la maison. Ils vous parlent de binaire et non-binaire. Ils savent manier ce qui tourne autour du genre, ils savent le différencier de la sexualité et vous êtes paumés. La première réaction, c'est de dire mais qu'est-ce que c'est que cette mode? La deuxième, c'est de se poser, d'essayer de comprendre ce que nous dit cette génération qui a sans doute des choses à nous apprendre et c'est ce qu'on va essayer de faire au 01 45 24 7000.
France Inter. Il va donc y avoir du changement dans les écoles la semaine prochaine parce que le compteur s'affole. 8500 classes sont fermées à cause de cas de Covid. L'incidence est forte chez les enfants, mais la priorité du gouvernement reste celle d'une école ouverte. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
On parle là de l'école primaire. Il n'y aura plus de fermeture de classe systématique au premier cas décelé.
Non, mais il y aura à partir de lundi prochain un dépistage systématique de toute la classe dès qu'un élève sera positif, comme l'a précisé le ministre Jean-Michel Blanquer.
Seuls les élèves présentant un test négatif pourront revenir en classe. Le test peut être réalisé soit par les responsables légaux, en général les parents, au travers des pharmacies, des laboratoires et de l'ensemble des structures qui réalisent les tests, soit au travers d'une présence des laboratoires dans l'établissement scolaire.
Dans l'établissement scolaire, les tests sont plus difficiles à organiser. Il faut l'autorisation des parents, toutes sortes de formalités. La facilité, ce sera le plus souvent que les familles s'en chargent. Test antigénique ou PCR, le document où figure le résultat négatif devra être montré à l'enseignant ou au directeur de l'école, mais il ne sera pas stocké, donc ça ne pose pas de problème en termes d'accès aux données médicales. Les enfants reviendront dans la classe petit à petit, une fois le résultat reçu.
Et alors, comment ces changements sont-ils accueillis par les professionnels et les parents?
Alors, les parents sont ravis. La FCPE réclamait cette mesure. La première fédération de parents d'élèves considère que les enfants ont déjà perdu beaucoup d'heures de cours. En revanche, les syndicats d'enseignants sont très inquiets. D'abord, sur la capacité des laboratoires à réaliser rapidement ces tests en grand nombre, notamment dans les zones rurales. Guylaine David, secrétaire générale du syndicat du primaire SNUIPP, redoute ensuite que cette mesure soit inefficace.
On est dubitatif parce qu'on sait que quand un enfant est testé négatif à J0, il peut être positif à J+2 puisqu'il y a le temps d'incubation. Et donc on pourra avoir potentiellement des enfants qui seront positifs alors qu'ils ont été testés négatifs 2 jours avant, mais ils ont quand même accès à la classe.
Pour les syndicats, le virus risque de continuer à circuler très activement parmi les enfants.
Et donc la question d'après, faut-il vacciner les enfants entre 5 et 11 ans? L'Agence européenne du médicament est pour. Et Olivier Véran y réfléchit, mais conscient du débat, le ministre de la Santé avance prudemment. Il n'en sera pas question avant le début de l'année prochaine. Le temps de solliciter la Haute Autorité de Santé et même le Conseil National d'Éthique. Si l'avis était positif et que la décision était prise, moult précautions donc, il faudrait aussi attendre de recevoir les vaccins avec des doses diluées pour les plus jeunes. Les États-Unis et Israël sont les deux seuls pays à vacciner les enfants aujourd'hui.
Et sinon, l'autre confirmation, Hélène, importante du jour, c'est le rappel vaccinal qui sera ouvert à tous dès samedi.
Absolument. 19 millions de Français éligibles à cette troisième dose qui sera nécessaire pour valider son pass sanitaire à partir du 15 janvier. Vous avez 7 mois pour la faire à partir de la dernière piqûre ou de la dernière infection si vous avez attrapé le Covid entre-temps. Et comme à chaque fois, l'annonce à peine faite, ça a été la ruée sur les sites internet. 400 000 prises de rendez-vous en quelques heures et même ruée dans les centres de vaccination. François Ventéjou de France Bleu Savoie a pu s'en rendre compte à Challes-les-Eaux près de Chambéry.
Le téléphone du centre de vaccination n'arrête pas de sonner. Au standard, Anthony.
Centre de vaccination à Challes-les-Eaux, bonjour.
Au bout du fil, un homme de 50 ans, il cherche une dose de rappel.
Votre deuxième injection, elle a eu lieu à quelle date, monsieur ? le 15 mai, bon bah vous êtes déjà dans les clous.
Il souhaite un rendez-vous le jeudi. La semaine prochaine, il n'y en a pas.
Sinon, le jeudi 9, est-ce que vous êtes disponible par hasard, si ça fait pas trop tard?
Pour parler à Anthony, il faut patienter 30 à 40 minutes derrière son téléphone.
Ah, j'ai que des appels du même type là en ce moment.
L'effet des annonces du ministre de la Santé est indéniable.
Ils ont peur. Des personnes qui veulent savoir s'ils peuvent prendre leur troisième injection ou des personnes aussi de 18 ans et plus qui m'appellent parce que leur profession oblige le pass sanitaire. Du coup, ils m'appellent tous en ce moment, le téléphone n'arrête pas de sonner. Doctolib est assez surbooké aussi.
Doctolib, c'est Mireille Tracol qui surveille les rendez-vous derrière son ordinateur. Elle est l'une des chefs du centre.
Actuellement, on est à J-6, c'est-à-dire que nous avons 6 jours, le planning est complet.
Ici, au quotidien, près de 600 personnes sont vaccinées. Pour accueillir plus de monde, plusieurs options comme ouvrir plus tôt et fermer plus tard. Recruter du personnel n'est pas non plus exclu.
Reportage France Bleu Pays de Savoie, le vaccin donc. Le masque, c'est le retour d'une contrainte. Il sera demandé même si vous avez votre pass sanitaire dans tous les lieux clos, là où il y a rassemblement, comme les marchés de Noël aussi. Et puis la durée de validité des tests sera ramenée à 24 heures au lieu de 72, à partir du prélèvement et pas du résultat. Et si vous n'êtes pas cas contact ou que vous n'avez pas d'ordonnance, il reste payant. Le gouvernement assume la pression mise sur les non-vaccinés, mais une bonne partie de l'opposition monte au créneau et réclame aujourd'hui la gratuité pour tous, Antoine Gignot.
C'est sur le risque de voir les contaminations augmenter qu'insistent les responsables politiques comme Olivier Faure. Le premier secrétaire du Parti Socialiste demande une prise en charge totale des tests pour toute la population.
Quelqu'un qui n'est pas vacciné, qui ne se teste pas et qui donc est potentiellement contagieux pour tout son entourage, potentiellement c'est une bombe humaine. Donc il faut que effectivement il sache qu'il a le Covid pour pouvoir s'isoler.
Il faut s'adapter, anticiper, renchérir chez les Républicains Michel Barnier qui met en avant un argument financier. La prévention, dit-il, coûte toujours moins cher que la réparation. Discours dans le sillage de celui de Jean-Luc Mélenchon, premier à s'être emparé du sujet, appuyé par les élus de la France insoumise. Pour la députée Mathilde Panot, la gratuité est indispensable face au défaut du pass sanitaire.
Avec votre pass sanitaire, vous avez l'impression d'être protégé et je crois que la première des choses à faire, c'est de pouvoir détecter qui est malade et qui ne l'est pas. C'est la mesure indispensable à remettre pour justement éviter que des personnes qui hésiteraient parce qu'elles n'ont pas une quarantaine d'euros à mettre puissent contaminer d'autres personnes.
Un argument que mettent en avant plusieurs scientifiques qui pointent le risque d'une détection trop lente du virus. Santé publique France indique d'ailleurs que le délai moyen entre les premiers signes cliniques et la date de prélèvement avoisine désormais 2 jours et demi, un record cette année.
Pour l'instant, les consignes liées au télétravail ne change pas, même s'il est demandé de prendre plus de précautions dans les cantines, 2 mètres entre chaque personne à table et d'éviter les pots entre collègues. Le ministre de la Santé fait le pari, dit-il, de la liberté et de la responsabilité sans recourir aux outils les plus contraignants. Cela suffira-t-il? La Belgique estime ce soir que le rebond épidémique est supérieur à ses prévisions les plus pessimistes. En Allemagne, on connaît aussi une vague la plus violente. Le seuil des 100 000 morts vient d'être franchi et Angela Merkel multiplie les appels à son successeur pour aller plus loin dans les restrictions. Nathalie Versu est à Berlin.
L'état d'urgence sanitaire a expiré ce matin à 0h en Allemagne. Concrètement, ça veut dire que les autorités allemandes n'ont plus les moyens de décréter un confinement national, au grand regret d'Angela Merkel, qui a même invité mardi à la chancellerie l'équipe qui va lui succéder pour tenter une fois encore de convaincre Olaf Scholz de baisser les rideaux dans le pays. Peine perdue, son allié libéral a fait du refus du lockdown l'un des mots d'ordre de sa campagne. Nous laissons 10 jours pour voir si nous sommes allés assez loin avec les mesures de protection, explique aujourd'hui la verte Annalena Baerbock. Un délai beaucoup trop long pour les spécialistes de la santé, alors que le pays comptait aujourd'hui un nouveau record de 75 000 nouveaux cas. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
Et puis en bref, un nouveau variant du Covid-19 a été détecté en Afrique du Sud, pays africain officiellement le plus touché par la pandémie, source de préoccupation, dit-on là-bas, même si on manque encore de données.
Au lendemain de la tragédie dans la Manche, l'heure est au recueillement à Calais.
C'est là qu'ont été transférés les corps des victimes, 17 hommes, 7 femmes et 3 adolescents. Ils ont perdu la vie dans les eaux glacées de la Manche et c'est encore un énorme choc pour ceux qui sont rassemblés ce soir autour de vous, Faustine Calmel. Cérémonie d'hommage que vous suivez en ce moment.
Il y a quelques centaines de personnes réunies dans ce parc Richelieu, comme à chaque décès des exilés. Cette fois-ci, ils sont 27 disparus qui vont rejoindre la liste des 309 noms de ceux qui ont déjà péri depuis 1999 en tentant de passer cette frontière entre la France et l'Angleterre. Des noms, 309, affichés au sol en lettres bleues, des bougies rouges tout autour. Et Alexine, une de celles qui vient en aide aux migrants ici, qui se dit dévastée.
Il y a une frontière ici. Il y a une frontière dans la mer Égée, la mer Méditerranée, tellement de frontières et il y a tellement de morts tout le temps en fait. Chaque mort est si horrible. Ce qu'on déplore, c'est que c'est tellement inutile. Toutes les morts auraient pu être évitées.
Évitées si les politiques migratoires européennes n'étaient pas celles-là, défendent les associations, si la répression n'était pas constante dans les campements. Patricia Viacalé, depuis toujours, venue ce soir dire sa tristesse sans pour autant espérer un changement.
De temps en temps, il y a comme ça un événement qui réveille un peu les consciences, mais ça retombe après. Donc voilà, je sais pas. Je suis très confuse par rapport à tout ça, mais ouais, il y a la révolte avant tout, il y a de la colère et parfois il y a de la résignation aussi.
La résignation face à un drame qui risque de se reproduire. Dès ce matin, plusieurs dizaines de personnes ont à nouveau tenté de prendre la mer ici à Calais pour passer en Angleterre.
Faustine Calmel en direct de Calais avec Lucien Lefebvre. Les tragédies de l'exil, c'est une vieille querelle de voisins entre Londres et Paris. Depuis les accords du Touquet en 2003, la frontière du Royaume-Uni est côté français et Paris reprochait encore récemment aux Anglais de ne pas participer suffisamment à la surveillance des côtes. Aujourd'hui, les deux pays promettent de coopérer, mais continuent aussi de se renvoyer la responsabilité. Pour la France, il faut également un espace Schengen plus efficace contre les migrants illégaux. Message envoyé à Bruxelles, où vous vous trouvez, Pierre Benazet.
Message envoyé effectivement depuis longtemps en fait, parce que la Commission européenne va faire des propositions pour réformer le code frontalier de Schengen. C'est une promesse de la nouvelle stratégie présentée l'été dernier. C'est d'ailleurs dans l'ordre du jour du Conseil des ministres européens de la Justice et de l'Intérieur les 9 et 10 décembre. On sait que la réintroduction des contrôles et leur justification, c'est un des axes de la proposition à venir. La France est d'ailleurs aux premières loges pour cette réflexion déjà largement entamée avec 5 autres pays, dont l'Allemagne ou l'Autriche. Elle fait partie de ceux qui ont maintenu depuis 2015 les contrôles réintroduits à titre exceptionnel au moment de la crise migratoire, des contrôles qui peuvent être réintroduits à chaque fois pour 6 mois avec une justification pour les maintenir. L'argument essentiel des pays favorables à la possibilité de réintroduire facilement des contrôles frontaliers, c'est de pouvoir garantir la sécurité de leur territoire, un argument qui semble devoir être entendu par l'Union européenne, parce que le fonctionnement de Schengen repose sur un niveau de sécurité élevé dans l'UE. Il y a d'ailleurs dans la proposition attendue de la part de la Commission un important chapitre sur la coopération policière. Il y a aussi le point de vue juridique, celui de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, qui estime que le fait d'imposer une limitation à la durée des contrôles serait incompatible avec la nécessité d'assurer la sécurité.
Une réunion aura lieu dimanche. Il en sera certainement question à Calais avec des ministres européens et représentants de la Commission européenne. En attendant, la réponse de la France est sécuritaire. Plus de drones pour surveiller les côtes. Des réservistes mobilisés également. Et l'autre sujet de brouille du moment entre le Royaume-Uni et la France, c'est la pêche et les licences que près de 150 bateaux français espèrent encore pour pouvoir travailler dans les eaux britanniques. Les négociations patinent et les pêcheurs passent à l'action. Menace de blocage des ports et même du tunnel sous la Manche demain. Mathilde Dehimy, vous êtes en direct de Saint-Malo, sur le port en face des ferries. Tout cela est en train de s'organiser là en ce moment.
Oui, pour l'instant, les pêcheurs et la météo permettent encore aux ferries derrière nous d'accoster. Mais demain matin, ce sera plus compliqué. L'entrée du port de Saint-Malo sera bouchée par les bateaux de pêche de 8h à 9h. Pascal Leclerc, président du comité des pêches d'Ille-et-Vilaine.
Une heure, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Mais quand il y a des marchandises à descendre du bateau, toute une rotation est faite, c'est comme un cahier des charges, c'est quand même pas rien, pour bien faire comprendre que la prochaine fois, ça peut être beaucoup plus brutal et beaucoup plus long.
Un avertissement sans frais, prévient Pascal Leclerc.
Il n'y a pas encore de la colère. Si on nous écoute pas, on est capable du jour au lendemain de bloquer tous les ports. Hein. On voudrait pas en venir là. Mais on a un pouvoir de nuisance que même les politiques l'imaginent pas. On se sent lésé. On est dans un jeu politique malsain et on en voit pour la fin.
Les pêcheurs pointent du doigt la Commission européenne qui ne bouge pas assez selon eux. Hier, elle a enfin fixé un ultimatum à Londres au 10 décembre. Insuffisant pour Dimitri Rogoff, c'est le patron des pêcheurs normands.
On n'entend pas l'Europe, donc il est important que l'Europe fasse entendre sa voix pour défendre les ressortissants européens. Il faut que l'Europe sonne la fin des chicaneries et que tout le monde se mette autour de la table avec l'idée de conclure quelque chose.
Ce sont en effet tous les pêcheurs de la côte qui entrent en action demain. Les ports de Saint-Malo, Ouistreham et Calais seront bloqués, ainsi que Rotunnel, avec des risques de bouchons importants à terre.
Mathilde Dehimi en direct de Saint-Malo avec Romain Lucquens. Merci à tous les deux. Le Royaume-Uni se dit déjà ce soir déçu de ces menaces de blocage.
Et à 19h15, Hélène, il y avait 4 absents dans le box aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre.
4 accusés, dont Salah Abdeslam, n'ont pas voulu se déplacer pour écouter le récit des enquêteurs belges. Sophie Parmentier, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes au palais de justice sur l'île de la Cité à Paris avec Martin Troadec. Pourquoi cette absence ?
Alors parce que ces 4 accusés qui s'étaient laissés extraire de leur prison ce matin ont finalement refusé de se laisser escorter jusqu'au box ce midi. Donc monsieur Salah Abdeslam refuse de comparaître, même chose pour monsieur Oussama Krayem, monsieur Sofiane Ayari et monsieur Mohamed Abrini, constate le président de la cour. Et l'avocate d'Abdeslam se lève pour expliquer: Salah Abdeslam a fait un refus d'extraction. Oui, car il est difficile de comprendre que votre cour donne la possibilité aux enquêteurs belges de témoigner anonymement aujourd'hui, alors qu'ils étaient il y a quelques semaines devant les télés, à visage découvert. Le président s'agace. Ce débat houleux autour de la présence physique des enquêteurs belges a été tranché la semaine dernière à huis clos et le président ne reviendra pas sur sa décision. Alors l'audience démarre avec 4 accusés absents, donc tous représentés par leurs avocats, ainsi que l'autorise la loi, et l'enquêteur belge apparaît dans les écrans de la salle d'audience. Cravate rouge, accent bruxellois, il brosse à grands traits les portraits de plusieurs terroristes du 13 novembre, dont l'un, Bilal Hatfi, visage juvénile, qui appelait sa Kalachnikov « mon bébé ».
Sophie Parmentier, en direct du Palais de Justice sur l'île de la Cité à Paris. C'est une élection qui continue de faire parler ce soir. Le général des Émirats Arabes Unis, Ahmed Nasser El Raissi, élu président d'Interpol, l'Organisation Internationale de Police Criminelle, alors même qu'il est visé par plusieurs plaintes pour torture en Turquie et en France, portées notamment par l'avocat William Bourdon, qui ne compte pas cesser le combat.
On va sans doute sûrement, d'ici quelques jours, déposer une nouvelle plainte. Et la question qui va se poser, c'est celle de l'immunité. C'est-à-dire, est attachée à sa fonction de président une immunité fonctionnelle qui est liée au traité qui a fondé Interpol. Mais il y a un mouvement international qui tend à considérer que l'immunité doit céder pour la personne mise en cause dès lors qu'il s'agit des crimes les plus réprouvés par la communauté internationale. Est-ce qu'il y aura un grand enthousiasme du pouvoir politique en France ? La réponse est non. Est-ce qu'il y aura une tentative pour essayer de faire passer des messages par différents canaux ? Je n'en sais rien. Je veux croire que non. Le vrai défi judiciaire, qui n'est pas un Everest, mais qui est quand même un défi, ça va être une bataille sur la question de l'immunité. Mais c'est un vent judiciaire qui souffle et j'espère qu'il va nous accompagner. On verra bien.
William Bourdon avec Christian Chesneau. Les Émirats Arabes Unis, de leur côté, semblaient tellement tenir à cette consécration qu'ils étaient devenus le deuxième contributeur au budget d'Interpol à travers une fondation basée en Suisse. C'est un DJ mondial allemand connu qui est de passage à Paris cet automne. Carl Craig, pape de la techno made in Détroit aux États-Unis. Vous le connaissez pas, Fabienne?
Mais bah, pas
vous
du allez tout, découvrir. Je ne suis pas une référence.
Il mixe ce soir au Silencio à Paris. On ne l'avait pas vu depuis quelques années. Donc c'est un événement et Mathieu Culon a pu le rencontrer juste avant.
C'est incroyable d'être de retour et de pouvoir à nouveau voyager, de revoir des gens et de retrouver la vie normale. Je suis heureux de voir la musique électronique continuer à prospérer, qu'elle soit underground ou pas. À Détroit, le groupe Kraftwerk était diffusé à la radio depuis 1981. J'avais alors 12 ans. J'écoutais aussi Parliament, Funkadelic, Cameo, Prince. Prince a été très important. Je parlais l'autre jour à des membres de Throbbing Gristle et je leur disais: est-ce que vous auriez imaginé un jour qu'à Détroit, des petit garçon noir écouterait un jour votre musique, cette musique industrielle qui venait de Grande-Bretagne. C'est presque un discours politique en lui-même. Nous, en train de se réapproprier cette musique qui venait de l'Europe pour la transformer et en faire notre musique. Oui, c'est votre musique, mais on la prend et elle est à nous maintenant.
Carl Craig qui sera donc au platine du Silencio ce soir à Paris. Et si vous préférez un bon livre en musique, pourquoi pas, bah voici celui de Clara Dupont-Mono, nouveau récompensé. Après le Fémina, c'est le Goncourt des lycéens qui couronne son roman S'adapter. Les jeunes jurés ont trouvé que ce texte laissait une trace lumineuse, ont-ils dit. Clara Dupont-Mono qui sera demain, j'en profite pour vous le dire, dans le 13-14 de Bruno Duvic.
Qui était au téléphone sonne il n'y a pas si longtemps, une émission formidable. Merci beaucoup Hélène Philly, vous revenez demain pour nous. Ça continue jusqu'à 20h avec le téléphone. téléphone sonne, nous allons prolonger ensemble les conversations que vous ramènent vos enfants en ce moment, qui parlent de genre, de sexualité, qui savent différencier les deux aisément, flouter les frontières féminin, masculin. Et si la société en ce moment a souvent une réaction de rejet ou lève les yeux au ciel, elle parle peut-être aussi, tout cela parle peut-être simplement d'incompréhension et d'une génération qui a des choses à nous apprendre. On verra ça ensemble au 01 45 24 7000, juste avant Un œil sur le ciel.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire, belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Elodie Calac, amélioration en Méditerranée demain.
Oui, du Roussillon au sud des Alpes, on va retrouver du soleil avec du vent assez fort. En Corse, toujours un risque d'averse, parfois un orage, du vent. Ailleurs, les nuages auront largement l'avantage. Alors, quelques pluies possibles du sud-ouest vers l'Auvergne-Rhône-Alpes et le nord-est. Quelques flocons du côté des Ardennes ou du plateau Lorrain le matin. Sur le massif central et les massifs de l'Est, là, de petites chutes de neige feront leur apparition dès 300 à 400 mètres. Ce sera un petit peu plus haut sur les Pyrénées, autour de 800 mètres.
Une nouvelle perturbation, Elodie, qui arrivera par la Manche.
Oui, avec de la pluie et du vent jusqu'à 70 km à l'heure. Elle s'enfoncera progressivement vers le sud et l'est. Et dans la nuit de vendredi à samedi, Fabienne, eh bien, elle va donner de la neige, alors en abondance en montagne et parfois jusqu'en plaine sur le nord-est. On pourrait avoir temporairement 1 à 3 cm. Le matin, il fera souvent moins 3 à 4 degrés. Et puis l'après-midi, 3 petits degrés à Mulhouse, à Grenoble, 5 à Reims et à Clermont-Ferrand, 7 à Paris, 8 à Toulouse, 12 degrés pour Brest, pour Montpellier. Et on ira jusqu'à 16 à Bastia.
Élodie Calac de Météo France. Merci beaucoup.